rencontrer la camarade Chantal Gomez, qui est tête de liste de l'ancien bateau.
Ah, oui.
Tu me regardes avec des yeux comme ça. Non, qui est tête de liste pour la région Rhône-Alpes.
Et Auvergne, tu vas t'oublier Auvergne.
Oui, mais bon, ça va s'appeler comme ça après. À sa gauche, il y a Liliane Michaud, qui est sur la liste Allier, qui est de Moulins, et qui travaillait à la DAS. Il y a moi, je suis Michel Lachaud, je suis tête de liste de l'Allier, je travaillais dans le bâtiment. Et on est 230 candidats sur la liste de lutte ouvrière. Il y a des employés, il y a des femmes de ménage, c'est varié, beaucoup d'ouvriers, je ne sais plus ce qu'il y a, du bâtiment, peut-être même de la... Je ne les connais pas tous. Hein. Donc voilà, on est 230 et puis bon, c'est tout ce que j'ai à dire spécialement.
Voilà, ben il y a la montagne qui a fait sur son site... une analyse sociologique des différentes listes de la région, ben voilà, vous voyez, c'est lutte ouvrière qui remporte la palme du nombre d'ouvriers sur sa liste, hein, devant l'UBC, puis alors bien devant le Front National, voilà, on a relevé la... C'est sur la montagne qu'il y a tout ça, donc vous pouvez le tirer sur le site. Bon, ben, vous avez vu que l'actualité a été de ces régionales est chamboulée par ce qui s'est passé, bien sûr, les attentats à Paris, donc on va en parler. Donc les ignobles massacres perpétrés à Paris vendredi dernier ont évidemment relégué la campagne électorale à l'arrière-plan. Ils ont aussi profondément modifié la situation politique dans le pays. Ces événements nous ont tous bouleversés. Et je ne peux que redire notre horreur face à cette barbarie. Nous partageons évidemment l'émotion et la douleur des millions de personnes qui ont tenu à se recueillir et à marquer leur solidarité avec les victimes et leurs proches. Au moins 132 morts et plus de 300 blessés, les terroristes qui ont frappé vendredi soir ont tué froidement et méthodiquement. Ils ont tué indistinctement, au hasard, pour terroriser. Rien ne peut justifier de telles tueries. Ces actes viennent d'ennemis de toute l'humanité et par conséquent d'ennemis de travailleurs. Mais l'émotion et la solidarité ne doivent pas nous empêcher de dénoncer la grossière opération de récupération politique dans laquelle se sont lancés depuis samedi les dirigeants des principaux partis. Comme après les attentats contre Charlie Hebdo et le supermarché Cachère en janvier, Hollande voudrait obtenir l'Union nationale derrière lui, derrière sa politique, derrière la guerre qu'il mène en Irak et en Syrie. Dimanche, il a reçu tous les chefs des grands partis, en particulier Sarkozy et Marine Le Pen. Lundi, il a réuni en congrès toute la gente politique pour en appeler à l'unité nationale derrière lui. Eh bien, les travailleurs ne doivent pas marcher dans l'Union nationale. Ils doivent s'élever contre leurs ennemis, que sont ces fanatiques barbares, sans accorder la moindre confiance aux dirigeants politiques de ce pays, l'une des plus grandes puissances impérialistes qui engendre et alimente la barbarie. Ils nous parlent d'unité nationale, mais ni la droite, ni le FN ne vont cesser leur entreprise de division nationale, et leur surenchère nauséabonde contre les musulmans et les étrangers, en appelant à l'état d'urgence, et à durcir les mesures policières, le gouvernement va renforcer encore le climat de méfiance généralisée à l'égard des musulmans et des immigrés. Car pour une poignée de fous fanatisés qui se cachent, combien y aura-t-il de contrôles aux faciès et de confrontations entachées de racisme? Leur unité nationale, cela veut dire s'unir derrière eux pour faire la guerre en Syrie. Oh, la droite et le FN critiquent la politique de Hollande parce qu'ils la trouvent encore trop laxiste. On nous dit que Sarkozy a déjà brisé l'union sacrée. Mais derrière leur surenchère et leur querelle politicienne, ils nous ordonnent tous de faire bloc autour de l'État et de soutenir l'effort de guerre. Ils approuvent tous l'état d'urgence et réclament encore plus de limitation des libertés. Vous avez vu, il n'y a que 6 députés qui n'ont pas voté l'état d'urgence, hein. 3 verts et 3 PS. Et si on ne soutient pas cette voie guerrière, c'est qu'on est avec les djihadistes, accusent-ils. Eh bien, ne nous laissons pas impressionner par ce genre de chantage. Il faut dénoncer et les terroristes et les responsabilités de l'État français. Daesh exerce une des dictatures les plus féroces qui soient dans les régions qui dominent en Irak et en Syrie. Ils rackettent les populations, les forcent à vivre selon les préceptes moyenâgeux, réduisent les femmes en esclavage et liquident ceux qui ne pensent pas comme eux. Leurs victimes sont autant musulmanes que chrétiennes, preuve, s'il en fallait, qu'il ne s'agit ni d'un choc des civilisations, ni d'une guerre de religion, mais d'une lutte pour le pouvoir entre seigneurs de guerre. Mais ces monstres ne sont pas sortis de rien. Ils sont le fruit pourri de la politique des grandes puissances pour maintenir leur domination dans cette région du Moyen-Orient qu'ils avaient colonisée. Les pays impérialistes n'ont jamais hésité à s'appuyer sur les pires régimes, sur les dictatures moyenâgeuses comme l'Arabie Saoudite et sur l'État d'Israël qui opprime le peuple palestinien. Et lorsque cela les a rangés, ils ont armé des groupes et manœuvré pour faire naître des oppositions. En Irak, les États-Unis ont renversé Saddam Hussein, détruit son armée et exclu les sunnites du régime qu'ils ont mis en place. Leur politique a directement fait le lit de Daesh. En 2001, après l'attentat du World Trade Center, les grandes puissances ont déclenché la guerre contre le terrorisme. À l'époque, il y avait un ou deux foyers terroristes. Aujourd'hui, 14 ans plus tard, il y en a des dizaines. C'est un constat, pas une opinion. Les interventions impérialistes ne font que nourrir les terroristes. Après les massacres à Paris, on nous dit « c'est la guerre » ou encore « il faut admettre que nous sommes en guerre ». Oui, c'est la guerre. Il y a un mois, les terroristes frappaient en Turquie, faisant 97 morts. Il y a 15 jours, un avion russe explosé dans le Sinaï, 224 morts. Jeudi dernier, à Beyrouth, une bombe a fauché 43 personnes. Quant à la guerre en Syrie, elle a déjà fait 250 000 morts. Et je ne parle ni des morts en Palestine ou à Gaza, ni de ceux en Érythrée, au Soudan ou ailleurs en Afrique, ou comme aujourd'hui ou hier là, au Mali. Alors non, la barbarie du monde n'est pas montée d'un cran depuis qu'elle a frappé Paris. Mais elle nous a rattrapés. Ni la France, ni l'Europe ne peuvent être un îlot de sécurité et de paix dans un océan de misère et de guerre. La guerre au Moyen-Orient et en Afrique nous avait déjà rattrapés à travers les centaines de milliers de migrants qui fuyaient au péril de leur vie à travers la Méditerranée. Et comment les Hollande, les Valls ou les Sarkozy qui nous appellent aujourd'hui à serrer les rangs derrière eux contre Daesh et le terrorisme ont-ils accueilli ces réfugiés qui fuyaient précisément la terreur instaurée par Daesh, par Bachar al-Assad ou par d'autres ministres islamiques, pas moins barbares? Ils les ont refoulés au-delà des frontières, parqués dans des camps de rétention ou des bidonvilles, ignobles, comme à Calais. Ils veulent créer des hotspots, autrement dit des camps de triage en Grèce et en Turquie. Ils installent des barbelés partout en Europe et rétablissent les frontières. Voilà leur solidarité avec les victimes de la terreur de Daesh. Mais qu'ils fuient la guerre ou la misère, ces migrants font partie du monde du travail. C'est pourquoi nous devons les accueillir comme des frères de classe. C'est pourquoi nous devons exiger la liberté totale de circulation et d'installation pour tous dans le pays de leur choix. Les riches le font sans problème, alors pourquoi pas les pauvres ? Les travailleurs conscients doivent combattre tous les démagogues qui prétendent les protéger de la misère du monde en fermant les frontières, en prétendant opposer le protectionnisme et le patriotisme économique à la mondialisation capitaliste. Comble du cynisme, Obama, Poutine et Hollande se préparent maintenant à faire la paix avec Bachar al-Assad, le bourreau de son peuple, et à le remettre en selle pour combattre Daesh. Ceux qui prétendent faire la guerre au terrorisme étaient fiers, il n'y a pas si longtemps, de vendre des rafales ou d'autres engins de mort à l'Arabie Saoudite, leurs alliés, l'une des pires dictatures islamistes. Et Hollande n'a pas été gêné pour recevoir le Premier ministre du Qatar ce mardi dernier. Apporter notre soutien à ces dirigeants impérialistes pour combattre le terrorisme, faire bloc derrière Hollande, Sarkozy ou Le Pen, c'est faire confiance à des pompiers pyromanes pour éteindre un incendie. Les laisser intensifier la guerre en Syrie et en Irak, c'est avoir la certitude que de nouveaux attentats éclateront, que de nouveaux pays basculeront dans le chaos et que de nouvelles vocations de terroristes naîtront. Certains nous disent, on ne peut pas rester sans rien faire. Mais pour les arrêter, il faudrait supprimer le terreau sur lequel ils poussent. Il faut mettre un terme à la dictature d'une poignée de grandes fortunes, de banquiers et d'actionnaires sur toute l'économie de la planète. Un monde où 67 familles possèdent l'équivalent de ce qu'ont pour survivre 3,5 milliards d'êtres humains. Un monde où l'Afrique et le Moyen-Orient sont des eldorados pour les capitalistes, mais des enfers pour leur population ne peut qu'engendrer des monstruosités. Cette minorité qui possède les capitaux, qui préfère racheter des sociétés existantes et spéculer sans fin à travers les multiples bourses de la planète, plutôt que de développer les forces productives qui permettraient de nourrir, loger, soigner, éduquer toute l'humanité. Le capitalisme est en faillite, au bout du rouleau. Le règne de la bourgeoisie, c'est la dictature des actionnaires sur la société, c'est la crise financière permanente, c'est la barbarie qui se répand partout dans le monde et qui atteint maintenant Paris et le cœur de l'Europe. Le danger ne vient pas de l'extérieur, d'Afrique ou du Moyen-Orient. Il ne vient pas de telle ou telle religion ou de telle ou telle communauté. Il vient de l'intérieur de ce système économique qui engendre chômage, inégalité et injustice, qui condamne toute une fraction de sa jeunesse au désespoir, aux humiliations, au point que plusieurs milliers de ces jeunes, nés et grandis en France, sont prêts à devenir des terroristes. Il vient du pillage de la planète par une poignée de grandes puissances qui sèment la guerre, la misère et le chaos. On ne s'en débarrassera qu'en prenant le mal à la racine, c'est-à-dire à la domination de ce système économique aveugle. Comme le disait Jean Jaurès, il y a plus d'un siècle, à la veille de la Première Guerre mondiale, le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Pour enrayer la guerre, la classe ouvrière doit trouver le moyen de renverser le capitalisme. Alors, ne nous laissons pas enrôler dans cette union sacrée des dirigeants impérialistes, directement responsables de la barbarie. Il est vital que nous, les travailleurs, quelle que soit notre origine, nous nous sentions une classe unie par nos intérêts pour nous défendre contre cette minorité qui nous exploite et qui plonge le monde dans la barbarie. Il est vital que nous retrouvions une conscience de classe, une conscience de nos intérêts communs, par-delà la diversité de nos métiers, de nos origines et de nos statuts. Oui, ceux qui appellent aujourd'hui à l'Union nationale contre le terrorisme sont les mêmes qui nous portent les coups ici, en France, en détruisant les droits des travailleurs, en permettant aux patrons de licencier sans entrave et sans pénalité, en laissant le chômage battre record sur record. Ils nous rabâchent matin, midi et soir que s'il y a du chômage, c'est parce que nous serions trop payés, parce que nous aurions trop de droits, parce que nous ne travaillerons pas assez. Et les mêmes voudraient aujourd'hui que nous oublions tout cela et que l'on serre les rangs derrière eux. Du PS, au FN, en passant par la droite, ils défendent tous le même point de vue du patronat, ils ont la même arrogance, le même mépris de classe. On l'a vu avec l'épisode d'Air France. Alors que les dirigeants d'Air France annonçaient 2900 suppressions d'emplois, provoquant la colère légitime des salariés, ce sont les salariés qui ont été traités comme des voyous, arrêtés à 6h du matin chez eux, parmi leur famille, pour deux malheureuses chemises déchirées. Puis finalement mis à pied, sans salaire, et maintenant licenciés pour faute lourde, c'est-à-dire sans aucune indemnité. Tous les dirigeants politiques des grands partis ont apporté illico leur soutien au DRH et tous ont condamné les travailleurs. Valls a traité les salariés d'Air France de voyous. Sarkozy a parlé de chien-lit, tandis que Maréchal Le Pen parlait de lynchage. Et ce sont les mêmes qui nous appellent aujourd'hui à nous unir derrière eux au nom de l'unité nationale. Ils ne manquent pas d'air. Pourquoi les travailleurs devraient-ils oublier avec les attentats que Hollande a mis ses pas dans ceux de Sarkozy pour aggraver toutes les mesures anti-ouvrières, que ce soit sur les impôts, les retraites, le temps de travail ou les droits des ouvriers? Depuis plus de 3 ans, Hollande a satisfait les unes après les autres toutes les exigences du patronat. En 2013, avec la loi de sécurisation de l'emploi, il a permis aux patrons d'introduire encore plus de flexibilité dans le temps de travail et de nouvelles baisses de salaire. Au début de l'été, la loi Macron a facilité les procédures de licenciement, généralisé le travail du dimanche, restreint les prérogatives des prud'hommes. Le MEDEF en redemande, ben qu'à cela tienne, Hollande, Valls, Macron et leurs amis s'emploient à les satisfaire. Valls vient de confier à Robert Badinter, l'ex-ministre de la justice de Mitterrand, la mission de réécrire le Code du travail. La mission de Badinter est de remplacer la loi générale qui s'appliquait à tous les salariés par des accords locaux d'entreprise, signés par des syndicats complaisants pour définir les salaires, les conditions de travail, bref, toute la vie des travailleurs au sein des entreprises. C'est déjà ce type d'accords locaux baptisé « accord de compétitivité » qui a permis aux directions de Renault ou de PSA d'augmenter le temps de travail et de supprimer des RTT tout en bloquant les salaires. C'est ce type d'accord qui a permis à la direction de Smart en Lorraine de faire un grossier chantage du style « ou vous acceptez de travailler 39 heures, de perdre des jours de RTT ou on supprime des emplois ». Avec ces accords, les patrons gagnent sur tous les tableaux. Ils rallongent le temps de travail, ils augmentent la productivité et ils suppriment quand même des emplois. Dans les faits, il y a belle lurette que les patrons ont trouvé le moyen de contourner la loi quand elle les dérange. Mais cela ne leur suffit pas, ils veulent que la loi les autorise explicitement à exploiter sans entrave et sans limite les travailleurs. Pour les patrons, ceux qui ont un emploi doivent être disponibles 24 heures sur 24, accepter les heures supplémentaires, accepter de travailler les dimanches ou les jours fériés pour chômer quelques mois ou quelques semaines plus tard. Tant pis, c'est des millions d'autres coupissent au chômage, de moins en moins bien indemnisés. Et on peut parier que l'état d'urgence et la guerre contre le terrorisme vont être utilisés sans vergogne pour nous faire avaler de nouveaux reculs, de nouveaux sacrifices. On va les entendre nous expliquer qu'il est indécent de revendiquer tant l'heure est grave. Pour financer les milliers de postes de militaires et de policiers dont Hollande vient d'annoncer la création, ils ne vont pas revenir sur les milliards versés au patronat sous forme de crédit impôt compétitivité, de crédit recherche, de baisse de charges multiples. Ils ne vont pas cesser de rembourser les dizaines de milliards versés en intérêts chaque année aux banques. Non, ils vont à coup sûr imposer de nouveaux sacrifices dans tous les services utiles à la population. Ils vont tailler encore un peu plus dans les dotations des collectivités locales, des communes qui sont déjà à la diète. Ils vont faire un peu plus les poches des plus modestes, des retraités, des handicapés. D'ailleurs, il a fallu l'approche des élections régionales pour que Hollande et Valls fassent vote face devant la stupeur des retraités modestes devant payer pour la première fois les impôts locaux dont ils étaient jusque-là exonérés. Hollande prétend que ce pataquès résulte d'une mesure prise par Sarkozy. Mais depuis 3 ans, non seulement le PS ne l'a pas annulé, il faut dire qu'il n'a pas le temps, il est occupé, mais il en a rajouté une couche avec diverses mesures qui, mises bout à bout, font que les anciens payent plus d'impôts. Valls et Hollande avaient même envisagé de faire les poches des handicapés. Ils avaient prévu de rogner les 800 euros d'allocation adulte handicapé en défalquant les intérêts annuels de ceux qui avaient quelques économies sur un livret A. Là encore, la proximité des élections l'a fait renoncer. Mais ces petites volte-face de dernière minute ne suffiront pas à sauver le PS de la déroute électorale. À moins que les attentats et la posture guerrière de Hollande n'inversent la tendance. Ce qui est peu probable, tout indique que le PS va prendre une nouvelle gifle électorale. Et cette défaite, il ne l'aura pas volée. Mais le système électoral dans ce pays est fait de telle sorte que le PS sera remplacé à la tête des régions par une des autres écuries politiciennes qui se disputent le pouvoir. Jusqu'à ces dernières années, Il y avait l'alternance entre deux partis, l'UMP devenu républicain et le Parti socialiste flanqué des écolos, des radicaux et du Front de gauche. Avec la montée du FN, avec l'usure rapide des partis au pouvoir en cette période de crise, le bipartisme a laissé la place au tripartisme. Mais cela ne change rien de fondamental pour les travailleurs. Pour gagner les élections, pour élargir son électorat, le FN s'est mis à draguer les ouvriers et les classes populaires. Sur son fonds de commerce traditionnel, la haine des étrangers, le racisme anti-immigré ou anti-musulman, Marine Le Pen a adapté son discours et développé quelques couplets sur les travailleurs pauvres, français bien sûr, qui travaillent dur et sont mal payés. Elle est allée jusqu'à promettre le retour à la retraite à 60 ans et le SMIC à 1500 euros. Oh, elle a toujours pris soin de rester floue sur la mise en œuvre de ses réserves, de ses mesures, pardon. Mais pour ne pas voir s'éloigner son électorat de petits patrons réactionnaires, le FN vient de changer une nouvelle fois son discours. Comme l'écrivait le journal Le Monde du 5 novembre, je cite, « Soucieux de séduire les électeurs de droite, les dirigeants frontistes mettent les revendications sociales et la sortie de l'euro sous l'été noir. » Le même journal titré « Opération séduction du FN en direction des patrons ». Plus le FN se rapproche de la mangeoire, ne serait-ce qu'à l'échelle des régions, plus il revient à un discours de droite bien classique, car il cherche à rassurer les patrons. Christophe Boudot, qui conduit la liste du FN dans notre région, la région Auvergne-Rhône-Alpes, a bien pris le tournant. Il ne rate pas une occasion de vanter les chefs d'entreprise présents sur sa liste. Tout comme ses deux concurrents Vauquier ou Kéran, il promet au patron de nouveaux chèques. Il annonce en particulier 50 millions d'euros pour financer les cotisations sociales d'un salarié pendant un an. Boudot prétend se préoccuper des petites entreprises. Mais le refrain est connu, ils nous font pleurer sur le sort des petites pour mieux arroser les plus grosses. Boudot, tout comme Vauquier et Kéran, doit d'ailleurs déjeuner en tête-à-tête avec le patron de Michelin, l'une des plus grosses boîtes de la région, pour prouver à ce grand patron qu'il sera totalement dévoué à ses intérêts. Cela doit servir d'avertissement à ceux des travailleurs qui se laissent tenter par le vote FN en se disant « cela, on ne les a jamais essayés » ou en croyant au boniment et aux œillades d'une Le Pen ou d'un Philippot en direction des pauvres. Au pouvoir, le FN mènera la même politique anti-ouvrière que ses concurrents, mais en pire, avec des méthodes plus musclées. Eh bien, les élections du 6 décembre doivent être une occasion pour les travailleurs de prendre la parole et d'exprimer sans ambiguïté leurs intérêts. En votant pour la liste Lutte ouvrière, ils diront qu'ils refusent d'être les sacrifiés de la crise, qu'ils ne supportent plus de subir plan de licenciement sur plan de licenciement, alors même que les entreprises font des profits, qu'ils ne sont ni trop payés, ni trop protégés et qu'ils travaillent déjà bien trop. Ils diront que ce n'est pas l'existence du Code du travail ni du CDI qui explique les plans de licenciement, mais l'avidité des actionnaires et des banquiers. En votant pour notre liste, ils diront que la seule façon de combattre le chômage, c'est d'interdire les licenciements. Aujourd'hui, dans toutes les entreprises, les cadences et la charge de travail augmentent. Ceux qui ont un emploi se cravatent, tandis que des millions de chômeurs dehors, qui ne demandent qu'à pouvoir travailler, n'ont pas de travail. Face à cette absurdité, il faut imposer la répartition du travail entre tous, les salariés sans baisse de salaire, à commencer par l'embauche immédiate des intérimaires et des CDD. Face à la baisse de notre niveau de vie, aux salaires gelés, aux pensions qui ne permettent pas de vivre décemment, il faut exiger une revalorisation des salaires et des retraites. Il faut exiger leur indexation automatique sur l'inflation réelle. Pour financer ces mesures vitales, pour enrayer l'appauvrissement de tous ceux qui n'ont que leur travail, pour vivre, il faut prélever sur les profits et sur les dividendes de la grande bourgeoisie et de ses hommes de main. Combien d'emplois pourraient être créés et financés avec les 7 à 8 milliards d'euros de bénéfices annuels du groupe Sanofi? Voter Lutte ouvrière, c'est affirmer qu'il faut contrôler les comptes des entreprises, exiger la levée du secret des affaires, du secret industriel et du secret bancaire. Ce secret permet aux banquiers et aux actionnaires de frauder à grande échelle vis-à-vis des États. de préparer en toute discrétion des plans de licenciement et des fermetures d'usines, de mettre en œuvre des projets nuisibles pour la collectivité, pour la santé publique ou pour l'environnement. Regardez comment, pour justifier les licenciements chez Air France, on nous a martelé qu'il en allait de la survie de l'entreprise. Et une semaine plus tard, on apprenait qu'Air France avait multiplié ses bénéfices par 6 au troisième trimestre. Le contrôle des travailleurs permettrait de vérifier que l'argent existe pour maintenir les emplois et augmenter les salaires. Un tel programme ne pourra pas être obtenu avec un bulletin de vote. Ces revendications ne pourront se réaliser sans que le monde du travail ne les impose au patronat et au gouvernement dans la lutte de classe. Mais les élections permettent de s'exprimer et voter lutte ouvrière, c'est approuver ces exigences vitales, c'est les faire connaître. Le regain de la combativité des travailleurs, bien sûr, ne dépend pas de nous. C'est l'exploitation et la soif de profits sans limite qui finira par le provoquer. La crise économique et ses conséquences, la société qui se délite, l'inquiétude face à la barbarie qui monte, pousseront tôt ou tard de nouvelles générations à chercher des explications et des solutions contre cette société capitaliste qui nous ramène en arrière, nous en avons la conviction. Mais pour que les futures luttes des travailleurs ne finissent pas dans des voies de garage, pour que la jeunesse trouve des réponses à ces questions, il faut que les idées communistes ne disparaissent pas. Il faut qu'existent des militants qui gardent comme programme le renversement du système capitaliste. Ces idées étaient celles du mouvement ouvrier à ses débuts. Elles ont été abandonnées et trahies successivement et depuis belle lurette par les partis socialistes puis communistes qui sont devenus des partis de gouvernement prêts à faire le sale boulot pour la bourgeoisie. Ces partis ont remplacé le drapeau rouge des travailleurs par le drapeau tricolore de la bourgeoisie, celui qu'on voit aujourd'hui partout. Ils ont fini par faire rentrer dans la tête des travailleurs que leurs intérêts étaient communs avec ceux de leur patron. Les élections sont une occasion de montrer qu'il existe des femmes, des hommes qui ne renoncent pas et qui s'attellent à la reconstruction d'un parti communiste révolutionnaire. Alors camarades et amis, il nous reste un peu plus de 2 semaines pour convaincre autour de nous de voter lutte ouvrière pour faire entendre le camp des travailleurs. Il faudra convaincre autour de nous tous ceux qui s'apprêtent à ne pas aller voter, pour envoyer des SMS, tous ceux qui pensent que ça ne sert à rien, que tous ces politiciens sont les mêmes, qu'ils doivent faire ce geste politique. S'abstenir, c'est se bâillonner et laisser la parole au seul larbin politique du patronat, qu'il soit de gauche, de droite ou d'extrême droite. A l'inverse, le 6 décembre, voter pour la liste lutte ouvrière contribuera, même modestement, à ce que la classe ouvrière se prépare à relever la tête.